Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Diwan. Nous remercions le journaliste de RFI qui nous a permis de faire un tour du monde de l'actualité. Vous êtes bien sur Radio Diwa sur 107.5 ou radiodiwa.fr, la radio du Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. C'est avec un immense plaisir que j'ai le plaisir de vous retrouver et que nous avons le plaisir de vous retrouver. Cette phrase n'est pas très française, on sent qu'il y a eu 2 mois d'arrêt là et de vacances pour tout
exactement.
Le monde. Je vais essayer exactement, me dit Adrien. Vous êtes bien sur CCC, on va essayer de retrouver nos esprits. C'est ça la classe. On a autour de la table des gens d'autant plus méritants qu'ils avaient encore cours il y a 5 minutes et que certains terminent leur sandwich. Je vous rappelle le principe de cette émission. CCC, donc comme c'est ça la classe, des lycéens intéressés, passionnés par l'actu et leurs professeurs qui essayent de débattre de l'actualité. On s'était quitté au mois de juin après 4 émissions, c'est donc le CCC numéro 5. On vous a ajouté des petites surprises et des petites nouveautés cette année, notamment une rubrique que nous vous proposons vers 1h moins 10, puisqu'on est là pour 50 minutes environ, où chacun de ceux qui le voudront bien proposera une espèce de coup de cœur ou de coup de gueule autour de l'actualité de ces 2 derniers mois, cette fois-ci, puisqu'on s'est arrêté depuis 2 mois. Voilà les 3 sujets que nous vous proposons aujourd'hui, en disant bonjour quand même à chacun d'entre vous. Ulysse, bonjour.
Bonjour.
Et puis Anne-Sophie.
Bonjour.
Ainsi qu'Adrien.
Bonjour.
Et Théo.
Bonjour.
Donc ce sont 4 fidèles que vous connaissiez déjà, dont vous avez l'habitude et qui étaient avec nous l'an dernier. Les 3 sujets...
Je crois que vous avez oublié notre élément clé qui est Joris.
Et Joris, pardon. En plus, je crois que ce n'est pas la première fois. il va falloir vraiment qu'on revienne...
Il s'occupe du son, donc il est un peu...
Tandis qu'il y a 2 retardataires qui arrivent, toujours les mêmes. Hein. Non, pas toujours les mêmes, puisque Médéo, c'est un peu un petit nouveau. Donc bonjour Médéo. Et bonjour Julien, on a 2 nouvelles recrues cette année, et bien sûr Joris qui est aux manettes aussi, c'est pour ça que j'ai tendance à l'oublier, et au contraire, c'est pour ça que je ne devrais pas l'oublier, puisqu'à la fois il intervient, et surtout c'est grâce à lui que tout fonctionne parfaitement bien. Bon, j'arrête de parler, sinon après vous avoir donné les 3 sujets et avoir donc lancé les débats, on vous parlera d'abord des noyades cet été, on a beaucoup parlé de ça tout l'été, presque 100 morts en France, dans le Languedoc, dans l'océan, alors faut-il sanctionner les gens qui prennent des risques, faut-il plutôt les responsabiliser, les encourager à respecter les drapeaux rouges? Ce sera le premier sujet de notre premier débat, forcément. Ensuite, une question sociologique, peut-on louer son corps? La question est un peu provocante. Suis-je propriétaire de mon corps? Et puis-je, comme certaines femmes en Angleterre notamment, proposant sur Internet d'allaiter les enfants des autres, puis-je considérer que le corps est une marchandise comme les autres? Et enfin, nous parlons de la vidéosurveillance. Tous protégés ou tous espionnés, tous fliqués. Environ 400 000 caméras sont autorisées en France, dont 30 000 sur la voie publique. Ce sont des chiffres d'une source du ministère de l'Intérieur. 3 Français sur 4 sont favorables à leur implantation. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une façon de surveiller, d'espionner les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être un peu tous dans une espèce d'immense Big Brother? Ou est-ce que c'est davantage un moyen d'être en sécurité? On commence donc par le premier sujet, sur les noyades. Merci Joris qui se déplace pour mettre le micro à la bonne hauteur. Et on va écouter le premier qui veut s'exprimer sur les noyades. Donc est-ce que vous avez entendu ça cet été? Vous êtes peut-être allé à la mer vous-même. Est-ce que vous avez vu des gens qui prenaient des risques? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ou l'avez juste entendu dans les médias? Qui veut prendre la parole en premier? Oui, Adrien?
Bah ouais, on a eu... Il y avait presque cet été à chaque 13h sur TF1, on voyait vraiment des accidents qui avaient lieu. Et ouais, c'est vrai, c'était assez choquant. Je sais pas si c'est un record, notamment cette année.
Je crois que c'est chaque année un peu plus.
Ah ouais, chaque année un peu plus.
Cette année un peu plus que
l'année encore. Cette année, en 2013, là, c'est un petit peu plus, mais c'est presque comme l'année dernière. L'année dernière, ouais. Aussi, il y a eu beaucoup de morts.
Et ouais, donc c'est assez frappant, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des risques. C'est vrai que se baigner, c'est très... Ça rime avec été, quoi. Les gens, même si c'est interdit, il y a des lacs où c'est interdit parce qu'il y a eu des accidents auparavant. Et il faudrait peut-être qu'ils soient un peu plus responsables.
C'est quand même
sur
un peu dommage de terminer ses vacances comme ça, quoi.
Bah, c'est sûr, mais aller dans des plages qui sont surveillées, toutes les plages sur lesquelles je me suis baigné, elles étaient surveillées, c'était clair, quoi. Enfin, voilà un peu.
D'autres réactions? Alors à l'inverse, on entend des vacanciers, pardon Médéo, je te laisse
après,
la parole.
Je pense que les gens ils sont responsables, donc...
Prends la parole, vas-y.
Ils doivent réfléchir, puisque c'est leur vie en fait, puisqu'il s'agit d'eux. Ils font ce qu'ils veulent en fait.
Donc, tu es plutôt pour la responsabilité individuelle, c'est quoi?
Oui, après il faut informer du danger par contre. si on ne sait pas qu'il y a un danger quelconque, c'est là qu'il va y avoir des accidents, en fait.
Mmh. Et si, malgré l'information, les gens prennent des risques, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut verbaliser ? Est-ce qu'il faut que les... la maréchaussée, les gendarmes viennent... alors, c'est un peu compliqué, c'est l'argument qu'on entendait de la part des gendarmes, aller verbaliser des gens qui sont en maillot de bain, qui n'ont pas leurs papiers sur eux, c'est un peu compliqué. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à les poursuivre jusqu'à leur voiture, leur demander leurs papiers ? Ou est-ce qu'il faut considérer que, en tout cas pour les adultes, après c'est difficile de faire le tri entre les adultes et les non-adultes, après tout ils prennent les risques qu'ils prennent. On a un peu le même problème avec la montagne. Est-ce que la montagne, est-ce que la mer, est-ce que les océans appartiennent à tout le monde ? On a un peu tendance à considérer que la nature appartient à tout le monde, et pourtant on est aussi responsable de la nature, de soi-même aussi, autant que faire se peut. Oui, Julia.
Après, c'est vrai qu'il y a aussi tous les problèmes liés au corps humain. Parce que quand on est en été, il fait souvent très très chaud, et on se rend pas compte que de rentrer dans un lac qui est plutôt frais, le changement de l'écart de température, ça peut créer une hydrocution, et les gens le savent pas forcément. Et c'est aussi, à mon avis, un des gros facteurs des noyades pour l'été, en tout cas.
Ah oui, c'est vrai. On est en vacances, on est léger,
voilà, ouais.
Tellement léger qu'on est en maillot de bain, et donc on est un peu inconscient, peut-être.
On est plus vraiment.
Vacances, j'oublie tout, ouais. C'est une chanson célèbre, mais que vous n'avez pas connue, vous êtes trop jeune. Oui, Anne-Sophie.
Bah, le problème aussi, c'est que vous dites, c'est leur responsabilité à eux de vouloir aller se baigner si c'est interdit et tout, et de mettre leur vie en danger. Mais le problème, c'est aussi que ça met celle des autres en danger, parce que faut bien, ces personnes-là, il y a des personnes qui vont essayer d'aller les sauver. Ça met la vie en danger aussi de pompiers qui vont aller vouloir les sauver. Et vous dites le comparatif avec la montagne, mais en montagne, si jamais quelqu'un se blesse ou quoi, il doit payer les sauveteurs ensuite avec son assurance ou quoi. En mer, c'est pas le cas. Et du coup, je pense qu'ils prennent plus facilement le risque d'aller se baigner alors que c'est interdit, puisque de toute façon, si jamais on les sauve ou quoi, ils n'ont pas à payer. Et puis, le problème, c'est qu'ils mettent surtout la vie des autres en danger. Après, la leur, c'est leur souci, mais que d'autres doivent... les sauver alors
exactement.
Que c'est dangereux, c'est surtout ça.
Ça met de l'argent en jeu, parfois de l'argent public, quand c'est justement pas la personne responsable qui doit rembourser, et finalement l'argent de chacun d'entre nous, du contribuable. Et puis ça met encore plus gravement en danger, même si c'est aussi leur métier, mais c'est pas non plus leur métier d'aller chercher des inconscients.
Voilà,
ça le devient de fait, mais c'est un peu dommage.
Sachant que c'était interdit à la base d'aller se baigner, voilà. Ils étaient prévenus, quoi.
Exactement, ils ont déjà assez de travail à surveiller ceux qui sont là alors que c'est autorisé, sans aller voir ceux qui sont là alors que le drapeau est rouge. Oui, Adrien, de nouveau.
Oui, donc le problème des morts, je pense, c'est surtout parce que les gens ne savent pas nager. Je crois qu'il y a un nombre assez important en France de personnes qui ne savent pas nager. Surtout par rapport aux anciennes générations où avant à l'école ils n'avaient pas la possibilité en cours d'éducation physique et sportive d'aller à la piscine. Et y a des progrès qui se font sur ce côté-là. Parce que dans notre génération, on a tous fait des cycles pour apprendre à nager. Et puis,
alors ce que tu dis est vrai, mais il y a aussi parmi ces centaines de morts, enfin cette centaine
de morts, des irresponsables.
Beaucoup de gens qui savaient nager, hein, mais qui croient savoir nager. Enfin, ça n'empêche pas qu'ils sachent le faire. Mais qui, notamment dans les océans, avec des courants, des vents très forts, se font déporter petit à petit, n'arrivent plus à revenir, en fait. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et ils paniquent et ils finissent par se noyer. Ulysse ?
Oui, moi je me disais, est-ce que là, plutôt que de mettre des surveillants, il en faut, le long des plages bondées, est-ce que ce serait bien aussi, entre autres pour les enfants, de faire des ateliers de responsabilité où on apprend, alors attention, il y a des courants qui peuvent, ça s'appelle les baïnes, qui renvoient les gens vers le large, et apprendre à lutter contre, à savoir, par exemple, ça, j'avais entendu que ça sert à rien de nager comme un fou, mais plutôt se laisser déporter, et ensuite, quand on sent que c'est trop tard, ensuite, plutôt garder des forces, et faire des sortes d'ateliers sur les plages pour les enfants, mais pas que, pour, comme on dit, responsabiliser au lieu de sanctionner, c'est toujours... toujours mieux de faire avant qu'après, en fait, c'est mieux...
Une sorte de prévention contre ces dangers-là.
C'est vrai. Mieux vaut prévenir que guérir, hein, dit-on.
Très bien.
Le problème, c'est que c'est le rôle des parents aussi, de prévenir leurs enfants.
Tout à fait.
C'est vrai. Parce qu'après, c'est encore des personnes qu'il faut payer pour... Enfin, ça fait des emplois pour les responsabiliser, mais à la base, c'est quand même le rôle des parents.
Ça, c'est sûr. Mais se pose encore le problème dans les adultes, qui, eux, n'ont pas forcément leurs parents avec eux, et qui décident de prendre des risques. Et comme tu le disais, vous le disiez, mais Anne-Sophie en particulier, qui décide surtout de faire prendre des risques aussi aux autres et aux sauveteurs. C'est ça qui est un petit peu discutable. Alors on comprend que des gens qui partent en vacances 15 jours dans l'année, parfois uniquement à ce moment-là. L'été, il fait beau, ils sont là, ils sont venus aussi et d'abord pour se baigner. Il se trouve qu'il tombe une semaine où c'est interdit, mais bon, voilà, il faut aussi s'adapter au climat et à la nature, il me semble. Donc il faut trouver un compromis entre eux, on est là pour s'amuser, pour s'éclater, et on oublie un peu ses soucis, au point qu'on prend de vrais dangers, on se met en réel danger. D'autres choses là-dessus ? Alors on va peut-être pouvoir passer à notre sujet numéro 2. On va vous proposer des magnifiques jingles bientôt. Là, on est encore en période de redémarrage, mais promis, on va vous faire de jolies petites surprises radiophoniques. Joris et tous ceux qu'il va former dans les semaines prochaines vont être très vite performants, c'est promis. Donc sans jingle, mais avec la même pêche, j'espère, nous allons passer au deuxième sujet, qui est un sujet entre la philo, la sociologie, l'éthique humaine, on va dire. Je ne sais pas si vous avez entendu cela, on en a parlé un petit peu au début de l'été. Et la question donc qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut louer son corps et considérer son corps comme un objet, une marchandise comme les autres ? On a un certain nombre de femmes, de mères, qui proposent d'allaiter les enfants des autres, soit que pour des raisons de santé médicale ou autres, les femmes, les vraies mères de ces enfants ne puissent pas les allaiter, soit que ça se pose aussi, et ça se posera peut-être de plus en plus depuis l'adoption du mariage pour tous, en France notamment, que deux hommes ne puissent pas par définition allaiter. Est-ce que on peut considérer comme normal, classique, de proposer ces services, qui sont des services un peu particuliers quand même, et en gros de proposer, c'est ça, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour allaiter les enfants, les bébés qui ne sont pas les siens. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? En Angleterre, il commence à y avoir des sites internet qui font ces propositions de location, en quelque sorte. Est-ce que ça vous choque ? Ou est-ce que, après tout, dans la mesure où c'est entre adultes consentants, enfin, le bébé est moins adulte, mais en tout cas, celles qui proposent et celles qui vont bénéficier du service, en quelque sorte, sont consentantes, eh bien, après tout, pourquoi pas ? Ulysse ?
Oui, j'avais entendu aussi, c'était dans l'année, je ne sais plus, il y a quelques mois, il y avait aussi une petite polémique. En Île-de-France, en France, il y a un site qui fait où chacun peut, on peut louer n'importe quoi. Je ne sais plus le nom du site, et il y avait entre guillemets scandale parce que une femme avait mis une annonce comme quoi elle loue entre guillemets ses seins pour allaiter des enfants avec un tarif de 100 € par jour disponible sur toute l'Île-de-France, etc., etc. Et donc on avait lu des articles sur internet, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà, etc. Et donc ça avait posé beaucoup de questions. Et voilà, c'est un peu comme vous aviez dit en Angleterre. Voilà.
Bon, on n'a toujours pas ton avis, Ulysse. Là, tu nous as résumé la situation, on est d'accord. Ça, c'est le point de départ. Mais toi, tu penses ça, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Bon, tu n'es pas forcément concerné pour l'instant, ni en tant que père, ni en tant que mère, encore moins. Mais ça te choque ?
Est-ce que ça me choque pas des masses ? Après, là, notre sujet, sans le nommer, on a très largement, on débat entre guillemets de la prostitution. Ça revient un petit peu au même. Parce que, moi, je vois louer son corps...
Comme tu y vas.
Ah bah, enfin pour moi, peut-on louer son corps ? Pour moi, c'est cette même question, et donc c'est aussi complexe. Ça, pour moi, ça devient aussi complexe, et donc voilà.
D'accord. Adrien ?
Alors moi, je prends plutôt ça comme un caprice des femmes, par exemple, qui accepteraient de faire allaiter leur enfant par une autre femme. Je trouve ça comme un caprice parce que on voit de plus en plus qu'il y a des... J'avais vu un reportage à un couple de Hollandais qui allait jusqu'en Inde pour louer non pas les seins, mais les ventres d'autres mères.
Ça existe aussi. Oui.
Donc voilà, les mères indiennes, donc ce sont certes des femmes qui sont très attirées par le prix, qui sont pauvres. Et donc on les voit, elles sont dans des centres, dans des hôpitaux. Et ces femmes attendent pendant 9 mois, elles sont logées, non pas pour elles, mais pour le bébé qui est dans leur ventre. Et moi, je considère ça un peu comme un caprice des couples qui favorisent un peu cette économie, quoi. Et oui, donc voilà, je trouve ça complètement absurde de mettre en vente son ventre, etc., sachant qu'on s'est souvent battu pour l'égalité hommes et femmes. Ben là, elle est pas du tout respectée par justement...
Après, il y a des mères qui tiennent à tout prix à allaiter leurs enfants. C'est pas non plus quelque chose d'obligatoire. Alors, est-ce que parfois, effectivement, elles mettent pas un effet de mode comme
c'est
tu
sûr
dis,
que c'est une corvée c'est parce que ça déforme. J'ai entendu que ça déforme le sein. C'est fatigant pour la femme d'allaiter. Ça demande du temps, etc. Donc, c'est sûr que maintenant, on cherche le plus simple, le plus efficace.
Ça, c'est juste. Anne-Sophie et notre technicien qui intervient aussi. Joris, Anne-Sophie.
En fait, on voit qu'on est plutôt choqué parce que ça pose une question d'éthique, de louer son corps. Et on pense que c'est une question de mode qui vient seulement depuis maintenant, mais ça existait depuis longtemps. Avant, les nourrices, c'est ce qu'elles faisaient aussi. Et ça se faisait aussi, je pense, plutôt dans la haute société,
oui,
où les femmes n'avaient pas le temps ou ne voulaient pas prendre le temps d'allaiter leur enfant. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Après, c'est...
Pendant très longtemps, les enfants de 0 à 5, 6 ans n'avaient aucun intérêt pour les parents. La noblesse ne voyait pas leur mère. Il y avait des nourrices qui s'occupaient d'eux, y compris pour...
Les nourrices, quoi.
Les nourrices. Nourrissons, nourrices de la même famille et qui allaitaient effectivement les enfants. Aujourd'hui, ça paraît un peu, évidemment, bizarre. Dans une société où on est un peu dans le tout-enfant, l'enfant roi, et un peu le culte du bébé, estimer qu'on délaisse son enfant de 0 à 5 ou 6 ans parce qu'il n'a aucun intérêt, parce qu'il n'est pas capable de parler, de réfléchir, on voit bien qu'il y a un changement de civilisation. On est passé un peu d'un extrême à l'autre. Médéo et Joris ?
Ben, moi, je vois pas trop d'inconvénients à ça, parce que on fait ce qu'on veut de son corps, en fait, comme pour la noyade, on est libre de faire ce qu'on veut.
Tu es pour la liberté totale.
Ouais, voilà, c'est ça, la liberté de son corps. Et quelque part, ça rend un service pour le bébé, parce qu'il peut être allaité. Et après, mais ce qui me plaît pas trop, c'est le côté argent. Enfin, faire ça contre de l'argent, c'est moins bien. Ça, voilà.
D'accord. Joris, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Après, on revient aussi au même problème pour la fécondation in vitro. Les femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, ou les hommes qui peuvent pas faire des femmes. Après, qui peuvent.
Il n'y a pas que moi qui pédale dans la choucroute aujourd'hui. Non, mais on est sur le démarrage est difficile.
Et puis après...
Remets tout dans l'ordre, Joris. Donc, qui ne peut pas avoir qui ?
Non, admettons qu'un couple puisse pas faire d'enfants pour raison X, comme c'est connu, des femmes ont des problèmes de stérilité, donc la fécondation in vitro peut être pratiquée, et à partir de ce moment-là, comment allaiter son enfant ? Donc on en revient, soit si on souhaite allaiter son enfant avec du lait normal, du lait stérilisé pour bébé, ou sinon avoir la solution de payer quelqu'un pour le faire.
Mm-hmm. D'accord.
Après, il y a toujours
c'est
ce
beaucoup plus
paradoxe.
Clair comme ça, Joris. Julien ?
Moi, c'est vrai que je trouve ça un petit peu pas aberrant, mais quand on voit les tarifs, je sais plus qui c'est qui parlait de 100 et quelques euros de l'heure, ça devient presque un luxe et limite, c'est pas l'industrialisation de la femme, c'est peut-être vraiment tiré par les cheveux, mais c'est l'impression un petit peu que ça me donne vraiment de. Il n'y a pas vraiment de respect pour les personnes, même si ça peut être la seule source de revenus qu'elles peuvent avoir, comme par exemple Adrien parlait pour l'Inde. Moi, je trouve ça dérangeant quand même de payer vraiment quelqu'un pour faire ce que les parents devraient faire. S'ils ont pris le choix d'avoir un enfant, à mon avis, il faut l'assumer jusqu'au bout. Si ça tient juste de la part de la volonté, après, il y a des parents qui n'ont pas le choix. Il y en a qui peuvent avoir des problèmes de santé, etc., qui ne permettent pas d'allaiter leurs enfants. Mais après, si vraiment, c'est vraiment juste le luxe de se payer l'allaitement de son enfant, je trouve que là, c'est vraiment...
effectivement.
Ça très
je
bien.
Te laisse la
c'est idiot surtout,
Sophie,
parce que si on l'a fait, c'est l'enfant, on doit s'en occuper et on n'aura pas le donner à quelqu'un d'autre. Mm-hmm.
Ouais, il faut faire la démarche jusqu'au bout.
Voilà. Juste.
Il faut être responsable.
Voilà.
Vous savez ce qui risque d'arriver dans cette époque de judiciarisation, d'hyper-judiciarisation qui vient beaucoup des États-Unis ? C'est que le bébé, le jour où il aura 18 ans, il va se retourner contre sa mère, il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu m'as mis dans les bras d'une autre mère et moi je vais te mettre un procès aux fesses, pour parler familièrement. On sera passé des seins aux fesses, en quelque sorte. Non, mais j'exagère peut-être un peu, mais, vous savez qu'il y a des enfants qui attaquent leurs parents parce que ils n'ont pas donné assez d'argent pour leurs études, parce qu'ils ne sont pas assez occupés d'eux. C'est quelque chose qui est en train de se développer, ça, pas trop en France encore. » Mais c'est aussi peut-être un peu le risque. Là, le seul qui n'a pas le droit d'avoir un avis, c'est le bébé. Alors, en même temps, c'est un peu pour son bien, au départ. Mais comme disait Adrien, un peu pour le bien des femmes, peut-être, qui ne veulent pas abîmer leur corps, et voilà. Anne-Sophie et Adrien, de nouveau.
On dit qu'il y a des couples qui peuvent absolument pas allaiter leur enfant. C'est vrai, par exemple, pour les couples gays. Mais par contre, on a une alternative qu'on n'avait pas avant, c'est de les materniser. Et ça peut aussi être une bonne alternative, et il y a tout ce qu'il faut qu'on... C'est sûr que le lait de vache pour les enfants, c'est pas possible pour plein de raisons, avec les microbes, etc. Mais le lait maternisé, c'est censé pouvoir justement pallier à cette.
Ça consiste en quoi, maternisé exactement ?
Bah, c'est
en poudre.
Hein. Oui, voilà, il est en poudre et il contient ce qu'il faut pour le nourrisson, quoi.
D'accord.
Mais c'est pas tout à fait vrai.
Regarde avec des yeux d'extraterrestre.
Non, mais c'est pas,
pas certain de la signification du terme. D'accord. Merci, grâce à toi, je sais. Adrien.
Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est justement louer justement ces seins comme ça. Je trouve que c'est une amorce de l'économie du corps humain, alors que la vie, je sais pas, c'est beau, c'est on en a qu'une, et puis c'est faut pas faire n'importe quoi, et c'est en train de devenir quelque chose de qui rentre dans l'économie de la France. Totalement avec cet allaitement, les femmes qui vendent leur... pas en France, mais en Inde, qui vendent leur ventre, etc. Et qui sont même sous-payées. Et puis en Amérique, où tu peux acheter du sperme sur Internet. Donc c'est, puis tu peux même choisir les critères de ton enfant. Donc c'est, je trouve ça... l'humain ne rime pas du tout avec l'argent, quoi.
Puis là, on est dans la science-fiction, quoi. Malheureusement, réel. Hein. Ils vont choisir la couleur des yeux. Là, on est presque là, avec toutes ces techniques de clonage ou sélection, en fait, de...
qui veut ressembler à tel acteur, le nez de Nicolas Cage, les cheveux de Brad Pitt, enfin ouais, ça
c'est. Oui, mais ça, si ils n'ont pas le choix pour allaiter leur enfant, qu'il faut que... Parce que là, il y a deux cas.
Et c'est pas obligé d'allaiter son enfant, c'est pas une obligation. C'est
le biberon.
Oui, avec le lait en poudre, comme elle a dit.
Ouais, lait en poudre.
Mais on peut faire le lait en poudre ou allaiter avec une femme, moi j'ai pas le problème. Je vois juste un problème, par exemple, quand on peut l'allaiter soi-même.
Oui, oui.
Là,
voilà.
Je suis pas d'accord.
Si la femme n'est pas disponible vraiment, elle ne peut pas. Bah, moi, je n'ai pas d'inconvénient.
Donc deux hommes,
oui, voilà,
par définition, sont obligés d'aller voir une femme, ça ne te choque pas.
Oui, ça me gêne pas. Ou alors
enfin, ils sont pas obligés, ils pourraient déduler, voilà.
Mais là, dans cette mesure, là, ça me gêne pas du tout.
D'accord. Théo, peut-être pour finir.
Bah, moi, je pense vraiment que quand les deux parents ont décidé d'avoir un enfant, c'est pour leur bien, ils veulent faire, ils sont heureux d'avoir eu l'enfant.
Moi je dis quand les deux ont eu l'enfant, pardon, je t'interromps, chacun devrait allaiter à son tour. Non, c'était une plaisanterie.
Non, mais ils devraient être heureux d'avoir l'enfant. Puis si c'est une autre femme qui vont allaiter l'enfant, et qu'est-ce qu'il va dire l'enfant s'il apprend plus tard que c'est pas sa mère qui l'a allaité? Je pense que moi ça me fera un impact. Comme, je sais pas qui c'était. Ou...
Comme pour son origine.
Oui, voilà.
Personne qui veut savoir qui est son père, qui est sa mère. Enfin, dans un couple homosexuel, il ne saura pas.
Ah, psychologiquement, pour l'enfant, ça ne doit pas être facile de se dire qu'on a eu une mère qui s'est occupée de nous quand on était petit, puis une autre qui nous a fait grandir. Enfin, bon, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais qu'un enfant qui arrive à l'âge de l'adolescence, ça ne doit pas être forcément toujours facile.
Il se pose des questions.
Ouais, je pense qu'il faudrait se mettre un peu plus à leur place. À mon avis, c'est ça, surtout un des problèmes majeurs.
Bien. Pas d'autres réflexions sur ce sujet. Donc, on va enchaîner sur le troisième et dernier sujet. Avant notre nouvelle rubrique, restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir cette nouveauté. Ça concerne donc, comme je disais, dans le sommaire, la vidéosurveillance. Sommes-nous tous protégés ou tous fliqués, entre guillemets? Certains considèrent en effet que c'est une manière de protéger les gens, les biens, contre les attaques à main armée, contre les vols à l'arraché dans les rues des villes. On a plus de 400 000 caméras autorisées, officiellement installées par les villes en France, dont 30 000, je disais en début d'émission sur la voie publique, c'est quand même beaucoup. De plus en plus de villes se mettent à la vidéosurveillance. Il fut une époque où, sans tomber dans la caricature, c'était plutôt des municipalités de droite qui installaient ces caméras, et de plus en plus, municipalités de gauche maintenant s'y mettent, donc ce n'est plus une affaire politique, mais une affaire politique au sens large, et presque plus de réflexion générale. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a le danger d'être tous espionnés? Est-ce que si on va faire ses courses ou rencontrer son amant ou sa maîtresse, même si personne n'en a, on n'a pas le risque que le policier municipal sache toute notre vie privée, ou celui qui va surveiller ces caméras, ou est-ce qu'à l'inverse, au moins on est protégé et on évite la délinquance? Alors, les chiffres ne sont pas toujours très clairs. Ça a fait diminuer en partie dans ce qui est évidemment vol à l'arraché ou endroit où il y a les caméras par définition, les crimes et les vols. Évidemment, il n'y a pas les caméras dans toutes les rues et ça se déplace. Le problème se déplace, c'est-à-dire que les cambrioleurs, les voleurs à l'arraché vont dans les rues dont ils savent très bien qu'elles ne sont pas concernées par les caméras. Ulysse.
Alors moi je voulais dire, en fait, dans, je sais pas, pour ceux qui connaissent, dans 1984, le roman de George Orwell, il y a une sorte de vidéosurveillance, donc c'est un roman qui a été écrit dans les années 50, et donc on voit qu'il y a de la vidéosurveillance dans les appartements des gens, mais pas dans la rue. Ben maintenant, il y en a dans la rue et non pas dans les appartements des gens, ce qui est encore plus grave, il me semble, puisqu'on peut voir tout le monde, et qu'en plus, la plupart du temps, elles sont discrètes, donc on n'est pas au courant. Et donc je trouve ça très très dangereux pour ces... Je trouve que ce sont des mesures liberticides. On a parlé des fois de vidéosécurité comme un terme politiquement correct pour cacher qu'en fait c'est de la surveillance, mais c'est quand même Big Brother is watching you, Big Brother vous regarde, et on est donc tous fliqués. Donc des personnes dans des salles peuvent voir n'importe qui. Ah tiens, il y a mon pote qui est allé, qui est passé à McDo. Il y a
c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent celui qui n'a rien à se reprocher, bah après tout, il est surveillé.
Si on
l'argument qu'on entend.
Si on commence là-dessus, on n'a rien à se reprocher. Enfin, on va peut-être en parler après, mais de l'espionnage international, de toutes les données informatiques pratiquées par les États-Unis, c'est complètement liberticide. Et si on n'a rien à se reprocher, mais évidemment, et 99% de la France n'a rien à se reprocher. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi, je réponds clairement non.
Ça, c'est une réponse claire, ferme et définitive. Définitive pas encore, car d'autres vont peut-être avoir un autre avis. Théo, tu es d'accord avec Ulysse ou
Oui, moi je pense qu'il faut... On peut mettre des vidéosurveillances, mais vidéosurveillance, il ne faut pas qu'elles atteignent jusqu'à la vie privée des personnes. Je trouve que ça ne sert à rien de savoir, par exemple, quelle heure a fait telle personne. Après, normalement, il y a certaines vidéosurveillances, normalement, il doit y avoir un papier qui dit qu'il y a une vidéosurveillance. Parce que s'il n'y a pas de feuille qui dit qu'il n'y a pas de vidéosurveillance, normalement, il ne devrait pas
avec
en avoir.
Avec l'article, le site internet où on peut se référer pour... Mais quand on est sur la voie publique, ce n'est pas vraiment sa vie privée. Tu viens dans la rue et tout le monde peut te voir. Donc, non, j'essaie de répondre à ton argument pour te répondre à ça. En quoi c'est la vie privée quand tu te promènes dans la rue que tu vas faire tes courses? En dehors du fait qu'on saura que tu vas plutôt manger chez McDo, effectivement, que chez Pic.
Non, oui, mais ça n'a aucune importance.
Sans faire publicité pour les grands restaurateurs de Rouen. C'est trop tard. Non.
Non.
Pourquoi c'est la vie privée? Où elle commence la vie privée et où elle s'arrête? C'est un peu ça la question aussi.
Je sais pas.
Mais bon, en revanche, c'est ce que je disais aussi. Hein, je n'ai pas d'avis. Il n'y a que vous qui avez des avis. Si j'en ai, mais je ne suis pas forcément là pour les donner. Pour que vous nous les fassiez partager à tous les auditeurs, auprès de tous les auditeurs. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, aller rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément les rencontrer, on n'a pas envie que d'autres membres de sa famille sachent qu'on était à tel endroit, oui, là, c'est déjà un peu plus la vie privée. Après, j'imagine que ceux qui regardent ces images, qui sont conservées qu'un certain temps, d'ailleurs, qui sont supprimées au bout d'un certain nombre de jours, ne sont pas censés, ils sont au secret professionnel, aller raconter ça à toute la ville ou à tout le village. Mmh. Adrien, et puis Julien.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on peut voir qui fait quoi, qui va où, etc. Et c'est n'importe quoi, parce qu'on n'a même plus aucune liberté, on est tout le temps, ok, ils disent de la sécurité, comme sur les routes, il y a marqué « Cette route est sur vidéosurveillance pour votre sécurité. » Voilà, c'est...
sceptique.
Ouais, moi je...
Tu penses qu'il y a d'autres intentions derrière.
Puis même, maintenant, on affiche notre vie partout. Enfin, c'est... Dans nos générations, dans les générations avant, c'était pas du tout pareil. Notamment maintenant, Facebook, on affiche tout ce qu'on veut, les réseaux sociaux, enfin voilà.
Et comment expliquez-vous que 75% des Français, donc 3 sur 4, dans des sondages assez récents, estiment que c'est une bonne idée?
Parce
qu'il faut multiplier.
Je pense que
ils ont peur, je pense qu'ils
se sentent sécurisés par l'épreuve vidéo lorsqu'il y a des, par exemple des, il peut y avoir des accidents dans la rue, dans les lieux publics, et
on se sent protégé
grâce à cette vidéo, alors que je pense la plupart du temps ne sert à rien, quoi. Que moi je suis pas trop d'accord avec
ça. Il y a encore des vols et des crimes, malheureusement, ça n'a pas résolu tout, loin s'en faut. Hein, encore récemment à Marseille, ce jeune homme qui est.
Oui, donc après, il faudrait trouver une autre solution, mais laquelle je ne sais pas.
Mais le problème, c'est les voleurs qui vont faire le vol, par exemple. Après, on pourra les retrouver avec la vidéosurveillance.
Ça a permis souvent d'identifier quand même des gens.
Oui, voilà, ça c'est le bon côté. Mais pourquoi on a besoin de la vidéosurveillance? Parce qu'on a pour des raisons de sécurité, normalement. Parce qu'on a peur, pour justement qu'il y ait moins de vols. Et moi, même s'il y a ce bon côté, je suis quand même contre, parce que je me balade dans la rue, la vidéosurveillance me voit, le mec qui est derrière la vidéo me voit, j'ai pas envie qu'il sache ce que je fais, c'est tout. Enfin, je veux pas qu'il sache que je suis allé à McDo ou je sais pas quoi, parce que c'est ma vie.
Elle dit tu peux pas aller au McDo, donc y a pas de souci.
Non.
En revanche, pour rester dans le local, plusieurs locaux autour d'un des deux magasins supermarchés du Diois, qui avait brûlé au début de l'été, je crois, ou pendant l'été. On a retrouvé ceux qui avaient mis le feu grâce à la vidéosurveillance. A dit. Oui, d'accord. Donc là, dans ce cas-là, ça a quand même été un sacré moyen pour avoir une preuve d'eux. Bon, même si je sais que c'est compliqué, parce que par rapport à la loi, c'est pas toujours une preuve non plus. Les gens sont pas toujours reconnaissables. Enfin, voilà, après, les gendarmes l'exploitent comme ils peuvent. C'est pas toujours de très bonne qualité, ces images. Qu'est-ce qui veut prendre la parole, Julien? Et puis Ulysse et Anne-Sophie. Anne-Sophie d'abord, honneur aux jeunes filles. En plus, il y a beaucoup de testostérone aujourd'hui.
Oui.
On a une seule jeune fille, hein, il faut quand même louer son mérite. Exactement. On va devoir recruter d'autres membres féminins pour que la parité soit respectée, car là, vraiment, honte à nous, il y a une majorité de garçons. Donc Anne-Sophie, vas-y, tu as la parole.
Il y a beaucoup de personnes qui sont outrées de ces vidéos parce qu'elles pensent que c'est une atteinte à la vie privée, mais déjà... À partir du moment où on est dans la rue, on peut être vu par les autres. Ensuite, la personne qui est derrière la caméra pour regarder, qui visionne les vidéos, elle n'est pas là pour regarder ce qu'on fait. Et je pense qu'elle s'en fiche un peu. Ce qu'elle veut, c'est la sécurité des autres. Ensuite, y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et on voit que elles sont pas, les vidéos, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour empêcher les délits. On s'est rendu compte dans des pays qui étaient beaucoup plus avancés que la France, qui sont équipés déjà il y a 13 ans, comme les États-Unis, l'Australie ou la Grande-Bretagne. Et dans ces pays, on s'est rendu compte que ça n'avait pas fait diminuer forcément les vols, même les vols à main armée. Ça ne les avait pas forcément fait diminuer parce que déjà, ça les avait fait déplacer dans des endroits où il n'y avait pas les caméras.
C'est ça, c'est ce qu'on disait au début.
Et ensuite, même dans les endroits où il y avait les caméras, ça ne les a pas empêchés. Et puis, je sais plus.
Oui, tu retrouveras tout à l'heure.
C'est déjà pas mal, Julien.
C'est déjà bien.
Donc, ouais, c'est vrai que pour ce qui est de mon avis, nous, dans la famille, je sais qu'on est vachement...
Extrêmement.
Non, mais parce que j'ai mon père, moi, qui travaille dans une société qui installe des alarmes, et notamment de la vidéosurveillance.
Ah bah alors, tu aurais dû commencer par ça. Un quart d'heure qu'on débat là-dessus, et il y en a un autour de la table dont le papa est juste
tu le dis que maintenant.
Voilà. Et donc...
Mais, attends, il écoutait, en fait, secrètement avant de se...
C'est ça.
Il n'osait pas trop parler. Ah bon, bah alors, tu as des choses à nous dire.
Ouais, oui, bah voilà. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qui est de la vie privée des gens, j'avais vu un reportage qui montrait en fait l'installation de vidéosurveillance dans les rues de Londres, et il y avait des gens qui s'étaient plaints qu'on pouvait apercevoir leur maison, voire même bien voir leur maison depuis les caméras. Et donc la ville qui était concernée a donc décidé de flouter les zones qui étaient des zones privées et de laisser juste nette la voie publique. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est vrai que quelqu'un, bon bah mettons c'est l'été, il va aller bronzer dans son jardin, il n'a pas forcément envie qu'on le voit en maillot de bain au plein milieu de son jardin, donc ça je pense que c'est normal. Après d'un autre côté, c'est vrai que c'est quand même un apport de sécurité pour tout le monde. Et mon avis, après je comprends totalement les gens qui se sentent blessé de voir une caméra, se dire bah tiens il y a quelqu'un qui me regarde, mais le monsieur qui est derrière les écrans à regarder les caméras, il est là justement pour il va pas venir voir vos parents, bah j'ai vu votre fils qui est en train de fumer dans la rue, ça c'est pas son but, il est juste là pour la sécurité des gens. S'il voit qu'il y a une intervention de quelqu'un qui met en danger les gens qui sont sur la voie publique, là, je pense qu'il va demander donc une intervention, par exemple, de la police ou d'une équipe d'intervention. Mon avis, il faut faire la part des choses. Quand on est sur la voie publique, comme quelques personnes l'ont déjà dit, c'est aussi pour... il faut accepter de se montrer. Et sinon, on resterait tout le temps fermé chez soi et on vit plus. Parce que, après, c'est un moyen qui se développe. Un moyen de technologie, il faut aussi vivre avec son temps, si je peux me permettre de dire ça, même si ça, je vois que ça fait réagir quelques personnes.
Il faut pas garder chez lui tous ses ustensiles.
Non, mais je sais que nous, on a eu une affaire de vol de vélo dans notre camping de famille, et l'installation de la vidéosurveillance nous a permis d'élucider en fait le mystère, et on était quand même très très soulagés de savoir que l'affaire était terminée. Et en ce qui concerne la législation, à l'entrée du camping, il y a vraiment clairement affiché ce camping est sous vidéosurveillance avec la loi, le décret, etc. qui autorise ça. Et c'est vrai qu'on a eu des retours après du camping. Les gens qui venaient dans le camping se sentaient quand même plus en sécurité avec les caméras.
Après, les caméras, c'est bien, mais est-ce que la présence physique de forces de police, de gendarmerie, c'est pas bien non plus? Alors, est-ce que ça peut remplacer en partie? Mais c'est bien aussi d'avoir des hommes et des femmes sur le terrain, non, Ulysse ?
Ouais, alors moi déjà, je pensais par rapport à Julien, ce qu'il a dit, de flouter les zones privées des caméras. Je trouve que c'est une super bonne initiative, c'est assez intéressant et je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Après, comme vous disiez, monsieur, je pense que en fait, la réalité, c'est que le transfert d'hommes sur le terrain, sur la voie publique, à des hommes dans des salles sur des vidéosurveillance, je ne pense pas que ce soit efficace et personnellement, je me sens beaucoup plus rassuré par des policiers en faction sur la voie publique que par une caméra. Je me sens, enfin, c'est l'inverse pour moi de niveau de sécurité.
C'est-à-dire qu'en termes d'intervention, forcément, s'ils sont sur place, oui, ça ira plus vite.
Oui.
Parce que le vol à l'arraché, par définition, on pourra retrouver le voleur après, oui, c'est bien, mais ça n'aura pas empêché la violence.
Quelqu'un qui est à l'autre bout de la ville, il y a une unité de police qui est complètement de l'autre côté.
Oui,
il se passe quelque chose, ils peuvent pas être partout.
Les caméras ne peuvent pas être partout, un peu plus quand même que les gens physiques.
Et puis ils pourront être mis au courant si jamais il y a de la vidéosurveillance, que si jamais il y a personne pour voir ça, ça va continuer et personne ne viendra intervenir.
Anne-Sophie et Ulysse pour finir peut-être, et Théo. Allez, commençons par Théo. Soyons fous.
Moi, je pense qu'on peut pas mettre des personnes devant chaque magasin pour surveiller. C'est pas possible. On sera tout le temps obligé de mettre des caméras.
Il n'y a pas non plus une caméra à chaque endroit de la planète.
Il n'y a pas de caméra de partout, mais
il y en a plus.
Je trouve quand même que quand t'as une caméra, tu te trouves en sécurité.
Ulysse, non.
Entre la caméra et une personne, je suis d'accord que quand on voit une personne, on est encore plus en sécurité parce que on n'y aura pas d'élite devant la personne, ce ne sera pas possible devant, je pense.
Anne-Sophie ?
Juste par rapport à la sécurité qu'entraîne la mise en place des caméras, en fait, on se rend compte que là où elles sont vraiment efficaces, c'est dans les lieux clos qui sont délimités où la caméra peut vraiment. A une importance parce que par rapport au lieu, elle voit vraiment ce qui se passe.
Comme les banques.
Oui, par exemple, les parkings surtout. Les parkings, là où forcément des forces de l'ordre ne peuvent pas être partout, et il est facile d'équiper des parkings en vidéosurveillance, et là, ça a un intérêt, clairement.
Ouais. Et comme on le voit aussi maintenant, la police l'utilise même parfois pour contraventionner quelqu'un qui est mal garé au bout de 5 minutes.
Ah bon ?
Sur des reportages, ça a été diffusé, par exemple, sur W9 cet été. Il y a des gens qui sont d'astreintes derrière des caméras, derrière des écrans, c'était mal stationné, ils voient avec la caméra, ils relèvent l'heure. Sur la feuille, ils mettent 5 minutes plus tard, c'était toujours là. Ils renotent l'heure à laquelle ils ont prélevé. Ils mettent la plaque d'immatriculation et ils envoient une contravention. Et sans pollution sur le terrain et sans contravention sur le pare-brise.
Ah oui, c'est intéressant.
C'est excessif.
C'est aller jusqu'au bout du raisonnement. Pour contraventionner, c'est ça que tu nous as dit. C'est le verbe m'a fasciné. Je ne suis pas certain qu'il existe. Tout le monde a compris.
La vidéo relève des emplois.
Je ne peux pas m'empêcher, moi, tu sais bien. Ne m'en veux pas.
Je sais.
Ulysse, peut-être le dernier mot ?
Ouais, en fait, moi je voulais dire un peu. Je voulais revenir un peu, entre guillemets, sur le fond du problème, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression avec cette vidéosurveillance que, en fait. Enfin, avec les. Comment dire ? En fait, la vidéosurveillance, elle est là pour qu'on ait plus peur dans la rue. Mais cette peur, il me semble qu'elle est en grande partie actionnée par.
Le fait qu'il y a des caméras.
Non, pas du tout.
Non, oui, plus il y a des caméras, plus il y a de potentialité que
c'est ça.
Il se passe des trucs aussi, c'est vrai.
Je peux continuer, merci.
Je te prie de bien vouloir m'excuser, Ulysse.
Pas de problème. Je voulais dire qu'en fait, c'est pour qu'on ait plus peur. Et cette peur, il me semble qu'elle a été développée d'une manière très très forte depuis des années. On a des chiffres au niveau du nombre de faits divers qui sont exprimés à la télé. On a. Le nombre de faits divers exprimés dans les JT, entre autres sur les chaînes d'information en continu comme DFM TV ou iTélé, il développe 100 fois plus les faits divers parce que ça crée des auditeurs, ça engrange des auditeurs et ce n'est pas de l'information. On peut voir que sur les chiffres qu'ils donnent, je ne les ai pas en tête, le nombre de faits divers traités dans les JT est complètement, la croissance est complètement exponentielle par rapport au nombre de délits qui a également augmenté, mais dans une mesure beaucoup beaucoup plus faible. Et donc cette mesure où en fait on fait peur à la population sans aucune base fait que tout le monde a peur, tout le monde a besoin de la sécurité, je ne vous parle pas au niveau politique ce que ça engrange, et au niveau de la vidéosurveillance, on peut voir que les gens ont peur et donc du coup réclament de la vidéosurveillance, d'où je vous réponds à votre question, pourquoi 75% des Français sont pour la vidéosurveillance ? Parce qu'ils ont peur, parce que les JT leur font peur, point.
C'était le coup de gueule d'Ulysse, je crois qu'avant qu'on passe à la rubrique coup de cœur, coup de gueule, il a déjà fait son coup de gueule, enfin je pense qu'il en a un autre à mon avis,
mais d'autres.
Tel que nous le connaissons. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais il doit avoir d'autres coups de gueule en magasin et vous aussi probablement. Alors juste avant de passer à cette ultime rubrique, on va écouter Médéo qui va faire la conclusion sur cette vidéo surveillance.
Moi je suis d'accord avec le coup de gueule d'Ulysse en fait. Parce que je pense que ça arrange pas les choses. Comment ils faisaient les gens avant, quand il n'y avait pas la vidéosurveillance, bah, ils se débrouillaient, ça allait très bien. Et après, je pense que ça dépend des gens aussi, comment on le perçoit. Il y a des gens, ils doivent voir, quand ils voient qu'il y a une caméra pas loin, ils doivent se dire « Tiens, chouette, je suis en sécurité, je suis filmé. » Mais moi, je fais mince, je suis filmé, ils me voient tout ce que je fais, j'ai pas envie.
Exactement.
J'aime pas ça.
Tu fais tant de choses que ça, Médéo, tu m'inquiètes.
Hein. Non, je fais rien, mais j'ai pas envie quand.
Tu fais rien ou tu fais des choses que donc tu as pas envie qu'elles soient reprises par une caméra.
Mais c'est pas que je
c'est
fais
pas
des choses mal.
Des choses mal, bien sûr.
Mais c'est que j'ai pas envie d'être surveillé constamment. J'ai envie de pouvoir faire des choses normales, mais sans être vu.
Il y a un policier qui passe et qui te fait un contrôle d'identité, alors t'es contre.
Mais le policier, il va pas se souvenir de tout. La caméra, c'est enregistré, c'est fichier, c'est...
Mais c'est pas fait pour être mis sur le domaine public.
Effacé, hein,
ça va pas arriver sur Facebook comme ça.
Mais j'ai pas envie. Oui. Heureusement que c'est pas sur Facebook.
Ça peut arriver, c'est par un principe.
On vous en mettez d'autres de choses sur Facebook.
Mais
c'est surprenant parfois.
Hein. Voilà, après...
vous balancez des photos qui sont franchement de vous, je sais pas en particulier autour de cette table, mais enfin les jeunes de votre âge. Parfois, mettre des photos sur Facebook, parce qu'on parle de la vie privée depuis tout à l'heure, largement plus privée que ce qu'une caméra pourra filmer dans la rue.
Oui, c'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est vrai.
Donc bon, tout ça est discutable. On arrête sur ce sujet-là, on va terminer avec notre nouvelle rubrique que nous vous proposons cette année. Et en fait, ça va être en dehors des sujets officiels que nous avons tenté de traiter modestement aujourd'hui, bien que ceux qui ont envie de s'exprimer poussent un petit coup de gueule ou un coup de cœur, en tout cas l'information essentielle qu'ils ont retenue dans la dernière quinzaine ou maintenant dans les deux derniers mois. Qu'est-ce qu'il veut commencer par son coup de cœur ou son coup de gueule? Ulysse, je sens que ça va être un coup de gueule.
Et non.
C'est incroyable.
J'en ai un. Avec,
on a la parité, pas avec, femme, mais un coup de gueule, un coup de cœur.
Avec des mais je voulais donner mon grand coup de cœur. Ça va en fâcher certains.
Ulysse est transformé.
Je voulais dire franchement que une réforme qui fait polémique en ce moment, c'est la nouvelle réforme de la nouvelle réforme pénale de Christiane Taubira. C'est mon coup de cœur des dernières semaines. Le coup de cœur.
Il n'est pas extrêmement partagé dans l'opinion publique, si je puis me permettre.
Ah oui. Non, mais je veux.
Mais tu as le
mon
droit.
Mon but n'est pas d'être populaire. Mon but est de dire ce que je pense ici.
Très bien, Ulysse.
Alors,
c'est fait pour, effectivement, je suis d'accord.
Donc, je voulais dire, donc, cette réforme qui fait que on va permettre à des délinquants de sortir de prison plus tôt. Donc, ça, c'est objectif, ce que je dis pour l'instant. Donc ils vont permettre avec des mesures d'accompagnement et des mesures d'accompagnement par exemple pour éviter les sorties sèches, ça veut dire que quelqu'un qui a passé quelques années en prison, eh ben, on lui ouvre les portes de la prison, il a sa brosse à dents et son pyjama et il n'a rien et on l'accompagne rien. Et alors entre autres dans cette réforme pénale, un des points que je trouve les plus importants, c'est donc qu'ils vont engager des conseillers en réinsertion, parce qu'actuellement il y a 80% des détenus qui sortent comme ça, sèches, donc la plupart du temps, ça, les personnes vont dans la rue, et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la rue et qu'on a été délinquant ? Eh bien on récidive. Et donc c'est une des causes directes de la récidive qui est, je le dis en France, qui est énorme, qui est de 64% de récidive dans les 5 ans pour le même crime, donc ce qui est énorme. Et donc ces sorties sèches sont une véritable plaie pour la justice en France et pour la sécurité des Français. Et donc ils vont engager des conseillers de réinsertion pour aider les gens, pour aider les détenus, les futurs ex-détenus, c'est compliqué, pour sortir de prison. Donc ça c'est une des très bonnes choses pour toujours limiter la récidive et donc pour la sécurité des Français. Et donc un autre point qui a fait beaucoup plus polémique, c'est qu'on va pouvoir libérer des prisonniers plus tôt, souvent ce sera donc ceux qui auront une meilleure conduite ou carrément certains, par exemple, pour des délits routiers, certains allaient en prison. On sait que le taux d'occupation des prisons est aujourd'hui de 120%, ce qui est une honte pour la France. La France a été condamnée à la Cour européenne des droits de l'homme pour le traitement dégradant en prison, ce qui est un scandale. Et donc, il y a des prisonniers qui, par exemple,
Il nous avait dit que c'était un coup de cœur au début. Il se transforme en coup de gueule, ton coup de cœur. Mais il y a une unicité, pardon.
Et donc, je disais que. Ce qui va permettre un peu de désengranger les prisons, scandale pour certains, mais ce que je veux dire, c'est que donc, du coup, ça va permettre dans les prisons qu'il y ait moins de monde, et moins il y a de monde, mieux les prisonniers seront, et on sait, enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est que la prison, il y a tellement de délinquants, et donc, du coup, pour moi, la prison est le meilleur endroit pour devenir délinquant. Et donc, du coup, je pense que c'est une très bonne réforme qui permet, je pense, à terme, de préserver la sécurité des Français.
D'accord, voilà. Ceci est clair et limpide. Merci, Ulysse. Théo, je crois, aussi. Ouais. Alors, coup de cœur ou coup de gueule ?
Non,
le suspense est insoutenable.
Coup de gueule, c'est une petite actualité qui parle de ceux qui font... qui sautent, c'est pas vraiment un parachute, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui sautent avec... Ça fait des sortes d'ailes. Bain jump. Et ça, il y en a de plus en plus. Maintenant, ça s'est vendu dans des magasins, une combinaison et avec un parachute. Parce que normalement, quand on pour atterrir, il y a un parachute et presque personne n'essaye de l'utiliser. Donc en fait, les personnes vont sauter d'une montagne et leur but du jeu, ça va être de frôler les montagnes, les montagnes, et il y en a, ils se filment pour montrer. Il y en a un qui avait réussi à faire ça, donc tout le monde veut le faire. Et cette année, je sais plus le nombre de personnes qui sont mortes à cause de ça, mais je trouve ça ridicule.
Il y en a qui ont sauté depuis les trois becs. Voilà. C'était l'année dernière, je crois.
Ouais, j'avais vu la vidéo, c'est impressionnant. Donc en fait, les trois becs, si vous voyez, en fait, c'est des grandes parois de 200 mètres. Et en fait, ils ont sauté, c'était pour les 50 ans d'une grande voie qui était là, et ils ont sauté, donc c'est 10 secondes de chute et ensuite très longtemps de parapente, c'était impressionnant la vidéo.
Après, pour répondre à Théo, c'est vrai que on trouve de tout sur le marché, il y en a qui veulent vraiment frôler les limites avec ça, à ce moment-là, ça tient encore, c'est vraiment un choix de leur part, c'est comme dans d'autres pays, on va pouvoir trouver des armes en libre-service, j'ai envie de dire. Si les gens ils ont envie de se tuer avec, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais voilà, là c'est des sports extrêmes. Les gens ils savent qu'il y a un risque de mort de l'autre côté. C'est peut-être aussi ce qu'ils cherchent. Je sais pas exactement ce qui les pousse à faire ça. Mais ouais, c'est un choix de leur part et je pense qu'ils sont complètement conscients de ce qu'ils font.
Donc en fait, c'est la réponse au coup de gueule de Théo, c'est ça?
Ouais,
que tu modères, que tu tempères.
Oui, oui, oui.
Adrien, peut-être pour finir avant que nous
moi,
nous
c'est un coup de gueule. Donc moi, j'ai beaucoup peur de la suite de ces années en France, notamment au niveau de la famille. Il y a justement les allocations familiales qui ont été supprimées. Donc c'est encore une chose qui touche la famille et je ne sais pas où va finir toutes ces... tous ces trucs qui se renchérissent de petit à petit et qui concernent encore une fois la famille. Et voilà, donc,
chers auditeurs, je dois dire que les lycéens et lycéennes au singulier aujourd'hui ont beaucoup de choses à dire et sur des sujets très différents, et je dois vous remercier en tout cas pour avoir autant d'avis sur l'actualité de la France et du monde. Je pense que dans 15 jours, on sera un peu plus sur l'actualité du monde, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de la Syrie aujourd'hui, alors c'est en train d'évoluer un peu jour après jour, et probablement qu'on parlera beaucoup de l'étranger, et en particulier de la Syrie, qui est un sujet grave, complexe. Je pense que vous avez aussi des avis à donner là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut avoir le mot de la fin? En tout cas, je remercie Adrien, Théo, Ulysse, Médéo, Anne-Sophie, Joris, je ne l'oublie pas cette fois-ci, et Julien d'avoir été avec nous. On va recruter encore de nouvelles personnes d'ici la semaine prochaine, certains devraient nous rejoindre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que d'autres choses vous ont marqué? Est-ce que cette émission, vous l'avez bien vécue, bien sentie? Est-ce
très
que
bien
vous
vécu,
êtes motivé pour repartir?
Exactement.
Pour au moins une dizaine d'émissions. Je rappelle la régularité, c'est une fois tous les 15 jours. On aura quelques petites exceptions et peut-être des rediffs au moment des vacances scolaires, mais on sera à peu près là une fois sur deux, toujours pour parler de l'actualité. On essaiera d'apporter des nouveautés de temps en temps. Tout ça, c'est sur Radio Diwa, c'est donc CCC, ça s'appelle C'est ça la classe. Ce sont des lycéens qui s'emparent de l'actu et qui n'hésitent pas à donner leur avis, vous venez de les entendre, des coups de gueule bien sentis, des coups de cœur tout aussi bien vécus et très bien exprimés. Merci encore à vous tous, restez fidèles à Radio Diwa, la Radio Diwa, n'oubliez pas, la Radio des Diwa et la Radio du Diwa, et même
au-delà.
Au-delà, ça c'était en cœur. À très bientôt, bon après-midi, restez à l'écoute des programmes de Radio Diwa, bien évidemment, et c'est avec un immense plaisir, j'ai commencé par le plaisir, terminons par le plaisir, le même, que nous nous retrouverons dans 15 jours. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Et restez... au revoir. Au revoir à tous.